Prions. Père éternel, nous te remercions de pouvoir encore ouvrir ta parole ensemble, en sachant que tu es au milieu de nous et que ton Esprit Saint habite dans nos cœurs. Et c'est par lui que nous pouvons comprendre ta parole. Et c'est pourquoi nous demandons son secours, nous demandons ta grâce, nous demandons ta lumière. Oui, que ta lumière nous pénètre, que nous puissions comprendre ce que nous avons à comprendre chacun, et que cette parole puisse être un puissant encouragement pour nous dans ces temps difficiles que nous vivons, que tu nous accordes de lever les yeux, de ne pas rester amer ou brisé par ce que nous voyons autour de nous, mais que nous puissions trouver une pleine espérance en toi et dans ta parole, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et fait encore pour son Église. Seigneur, c'est notre prière dans le beau nom de notre Sauveur. Amen.
Amen.
Nous allons faire une première lecture dans la première épître aux Corinthiens et au chapitre 9. La première épître aux Corinthiens au chapitre 9, depuis le verset 24, et nous lirons jusqu'au verset 11 du chapitre 10. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et comme dit tout à l'heure, nous retournons dans l'Épître aux Hébreux. Et au chapitre 12, nous lirons les 6 premiers versets, mais seuls les 3 premiers feront l'objet de la prédication. Hébreux 12, depuis le premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. La dernière fois, ça fait déjà un mois, nous sommes arrivés à la fin de notre visite de la galerie des héros de la foi. Tous pris, ces héros, dans l'Ancien Testament. Ce qui finalement n'est pas très étonnant. Puisque à l'époque, les différents livres du Nouveau Testament, à l'époque où ils ont été écrits, on n'avait pas assez de recul, de distance dans le temps, pour donner comme modèle, par exemple, la foi des apôtres. Mais ça nous montre bien aussi, comme on l'avait déjà relevé, et ça devait bien le montrer aussi aux destinataires de la lettre, donc des Juifs convertis à Jésus-Christ, ça nous montre que le salut par la foi n'est pas une invention ou une nouveauté de la Nouvelle Alliance. Évidemment non, puisque l'apôtre Paul relève que le Père des croyants, de tous les croyants en Jésus-Christ, n'est autre que le patriarche Abraham. Et partout dans l'Ancien Testament, comme nous avons pu assez largement nous en rendre compte, en parcourant notre galerie des héros de la foi, partout, la vie consacrée à Dieu, et je voudrais dire autant consacrée à sa volonté qu'à sa personne, une vie livrée à son amour, partout, cette vie consacrée, et donc obéissante, est le fruit de la foi. Quand le cœur, dans un élan d'humiliation et de repentance, mais aussi de confiance et de joie, s'élève vers Dieu pour en attendre ses directives et entrer alors dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parce que c'est ça la vraie connaissance de Dieu, celle qui nous procure le bonheur. Entrer dans ses œuvres en le connaissant. Avant d'entrer dans le vif du sujet du passage d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire remarquer que la lecture que nous venons de faire dans 1 Corinthiens 9 et 10 est tout à fait un même genre d'exhortation que celui que nous avons ici au début du chapitre 12 d'Hébreux. Mais ici, dans Hébreux, avec le chapitre 11, il nous a été montré des modèles à suivre avec ces témoins de la foi. Alors que, comme vous l'avez vu dans 1 Corinthiens 10, il s'agit d'exemples à surtout ne pas suivre. Et Paul a précisé que si l'Écriture nous informe des infidélités et de l'idolâtrie du peuple d'Israël, de son incrédulité, et en conséquence de son châtiment, c'est bien pour que nous en prenions instruction et que nous ne les imitions pas. Avec le chapitre 11 d'Hébreux, le Saint-Esprit a placé devant nos yeux suffisamment de bons exemples à suivre pour que nous nous écartions des mauvais. Maintenant, il est vrai que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avait également averti de ne pas imiter la conduite suicidaire du peuple d'Israël dans le désert, comme le fait Paul au chapitre 10 de 1 Corinthiens. Et ça, dans Hébreux, c'était dans les chapitres 3 et 4, où nous étions exhortés à ne pas endurcir notre cœur si nous entendions la voix de Dieu. Voilà, alors on y va avec notre texte d'aujourd'hui. Les héros de la foi de l'Ancien Testament sont nombreux. Il y a bien sûr tous ceux qui sont mentionnés dans le chapitre 11, mais aussi beaucoup d'autres connus et inconnus. Et c'est pour ça que l'auteur peut nous parler dans ce premier verset d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire un nombre immense de témoins, une multitude. Quel encouragement nous avons là d'être environnés, entourés par tellement de témoins de la foi qu'on ne peut même pas les compter. Il peut arriver que nous ayons l'impression d'être seuls. Même dans l'Église, avec de chers frères et sœurs autour de nous, il peut nous arriver de nous sentir seuls et de ne pas trouver, même auprès de ceux qui nous sont les plus proches dans la foi, de ne pas trouver l'aide, le soutien ou le réconfort dont nous aurions besoin ou auquel nous aspirons. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Peut-être, et c'est bien regrettable si c'est le cas, nous ne trouvons personne à prendre en exemple, dont l'exemple de foi, de consécration, pourrait nous stimuler, nous encourager. Parce qu'évidemment, c'est une réalité, notre foi ne reste malheureusement pas au beau fixe. Elle est souvent en chancelante, et parce que nous sommes encore dans la faiblesse de la chair, il peut arriver que nous soyons découragés, que nous perdions le sens de notre vie ici-bas, même le sens de notre vie d'enfant de Dieu, où on ne discerne pas vraiment l'intérêt de notre témoignage, où nous en sommes dans notre cheminement. Et alors parfois, comme ces chrétiens hébreux, à qui cette lettre était adressée, nous sommes tentés de nous relâcher dans notre course chrétienne. Que les tentations et les convoitises se fassent vives et menaçantes, nous découvrons que le risque de la chute dans le péché nous effraie à peine. Pas plus, malheureusement, que le risque du déshonneur de Dieu entraîné par ma conduite coupable. Alors oui, de savoir que d'autres avant nous ont eu ces mêmes combats, mais qu'ils ne se sont pas relâchés, qu'ils ont au contraire persévéré, malgré la persécution, malgré les menaces, parfois la mort qui était à leur porte, auxquelles certains d'ailleurs n'ont pas échappé, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans beaucoup d'endroits sur la terre, où l'Église est tellement opprimée, comme vous pouvez le lire dans le dernier journal de nouvelles du Sri Lanka qui est sur la table, vraiment instructif, vraiment, de nous savoir environnés par un si grand nombre de frères et de sœurs qui sont des exemples pour nous. Voilà qui devrait nous encourager à garder les yeux fixés, non pas sur eux, mais sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'est-il pas lui le modèle suprême? Celui qui a tout enduré, non pas pour lui-même, parce qu'il allait en retirer un quelconque avantage, mais pour plaire à son Dieu et nous racheter, nous, de notre péché, de notre incrédulité, de notre impiété, de notre impatience, de notre ingratitude envers ce Dieu si grand, si saint, si parfait, qui a voulu devenir notre Père céleste pour l'éternité. Et donc, puisque de si nombreux témoins de la foi sont, pour ainsi dire, à nos côtés, écoutons l'exhortation que le Seigneur lui-même nous adresse au travers de ce passage ici. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On s'arrête là pour le moment. L'auteur nous dit qu'avec de tels modèles, des modèles de patience, de persévérance, de courage, comme nous l'avons souvent remarqué en parcourant notre galerie des héros de la foi, avec de tels exemples de détermination à accomplir la volonté de Dieu que ces femmes et ces hommes nous ont laissés et par lesquels le Saint-Esprit veut aujourd'hui ranimer notre zèle ou peut-être déjà nous empêcher de nous endormir, eh bien, avec de tels modèles devant nos yeux, notre bon Père Céleste nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ici, le fardeau n'est pas nécessairement lié au péché, bien que le péché soit souvent cause de ralentissement ou d'immobilisme dans notre course chrétienne, de lourdeur paralysante. Non, ici, on peut très bien comprendre ce que Jésus lui-même dit dans l'Évangile. Nos inquiétudes peuvent être parfois de réels fardeaux. Matthieu 6, dès le verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Et un peu plus loin, versets 31 à 34, Jésus continue. « Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, mais ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Se préoccuper des choses de la terre est un fardeau pour le chrétien qui ralentit sa course, qui l'empêche d'avancer dans la maturité chrétienne, dans la maturité à laquelle le Seigneur nous appelle. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, 6 à 10, va exactement dans le même sens. Écoutons ce qu'il dit. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés de cet amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Mais maintenant, évidemment, il y a aussi des fardeaux qui nous sont imposés, n'est-ce pas? Eh bien, dans la mesure du possible, Ceci également, il nous faut les déposer. Notre Seigneur Jésus nous le dit, c'est de son fardeau à lui qu'il nous faut nous charger, parce que le sien est doux et léger. Et l'apôtre Pierre l'affirme, 1 Pierre 5, 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Petite question au passage. Si l'Écriture nous adresse de telles exhortations, pensez-vous que nous pouvons y arriver? Que nous pouvons déposer nos inquiétudes, nos soucis au pied de la croix? Réellement nous en décharger pour d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice? Ou bien est-ce que c'est impossible? Ah non, on ne peut pas se décharger. On ne peut pas se décharger sur le Seigneur de nos soucis. On ne peut pas ne pas nous inquiéter du lendemain quand il n'y a rien qui va. On ne peut pas faire ça. Ah bon? Alors, si c'est ce que tu crois, c'est qui ce Dieu en qui tu crois? Ce Dieu qui n'est pas capable d'accomplir en toi ce qu'il ordonne? C'est Augustin, je crois, qui a dit « Dieu donne ce qu'il ordonne ». C'est une autre manière d'exprimer cette parole de Philippiens 2, 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et dans 2 Corinthiens 3, 5, Paul dit également que notre capacité vient de Dieu. Donc oui, c'est possible de nous décharger sur lui de tous nos soucis. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ, parce qu'il vit en nous, nous sommes rendus capables. Oui, nous sommes rendus capables de nous décharger de nos fardeaux, de lui faire confiance, parce que c'est lui qui tient toute notre vie dans ses mains. Et parce que c'est lui qui veut accomplir cette parole si chargée de sens de Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt à notre bien, même quand on n'en a pas vraiment l'impression. Même quand on n'en a pas vraiment l'impression, ça concourt encore tout aussi bien à notre bien. Tout simplement parce que c'est pour notre bien que le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même à la mort de la croix. C'est en vue de notre bien suprême qu'il nous a sauvés. Et donc, par conséquent, c'est dans la connaissance de Dieu, par Jésus-Christ, que tout bien m'est offert. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie, il faut seulement que nous nous ouvrions à cette vérité et que nous la recevions dans notre cœur. Demandons à notre bon Père Céleste qu'il imprime lui-même cette vérité dans nos cœurs pour que nous la croyions fermement. Je rappelle juste encore une fois cette parole de 1 Corinthiens 10, 5 à 7. Mais la plupart d'entre eux, la plupart des Israélites délivrés de la servitude de l'Égypte, ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, et donc ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Revenons à notre texte d'Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors après l'exhortation de rejeter tout fardeau, maintenant le péché. Dans ce mot de rejeter, il y a une idée de radicalité. Il ne s'agit pas seulement de juste de mettre de côté ou de l'ignorer, de faire comme s'il n'existait pas. Non, il s'agit de regarder le péché en face, de l'identifier, c'est-à-dire de l'appeler par son nom, et alors de le rejeter avant qu'il ait eu l'occasion de mettre le pied dans la porte. À l'intention du péché, sur la porte de mon cœur, il faut mettre une pancarte bien lisible, en gros caractères, « Entrée interdite ». Pourquoi faut-il cette radicalité? Pourquoi faut-il éviter toute familiarité avec le péché? Mais justement, parce qu'il nous enveloppe si facilement. Il nous entoure, nous encercle, nous envahit, comme le brouillard un matin de novembre sur le Causse, ou hier matin à Châteauneuf, paraît-il. Je disais tout à l'heure que le fait que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu n'était pas de la théorie. Mais le péché qui nous enveloppe si facilement non plus. Parce qu'en fait, nous sommes immergés dans un monde de péché. Et sans parler de celui qui nous habite, qui est dans nos membres, eh bien même quand nous sommes, pour ainsi dire, barricadés dans nos maisons, et qu'il nous semble être à l'abri des influences du monde extérieur, néanmoins, si nous n'y prenons pas garde, les écrans et les haut-parleurs de nos télés, tablettes et smartphones, non mais écoutez bien ça, distillent continuellement des images et des paroles immorales, impures, mensongères et parfois même blasphématoires. Mais le pire, c'est quand on ne s'en aperçoit même pas, ou quand on écoute ou regarde ces choses avec complaisance. Mais c'est des pièges. Mes amis, si nous sommes ici appelés à rejeter le péché, nous devons nous souvenir que le monde, lui, fait tout le contraire. Mais oui, il fait tout ce qu'il peut, le monde, pour rejeter Dieu. Alors êtes-vous d'accord si je dis que nous honorerions davantage le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ si nous rejetions le péché et le mal avec autant de constance et de force que le monde, lui, rejette Dieu et sa loi? Cet acharnement du monde à vouloir évacuer de l'espace public, mais surtout de l'esprit des gens, toute référence au Dieu de Jésus-Christ, cet acharnement, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord que je parle d'acharnement, mais ça suffit d'ouvrir les yeux, quoi, et puis d'écouter. Donc cet acharnement ne devrait-il pas nous donner à nous de l'énergie et de la hardiesse pour être des témoins du Christ qui crucifie en eux chaque jour le péché, qui nous enveloppe si facilement? Et je le dis pour moi-même, pour commencer. Écoutez encore cette exhortation de Paul dans le 12e chapitre de sa lettre à l'église de Rome, verset 9. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Et attachez-vous fortement au bien. Ça suit tout de suite après. Ou encore verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà un bon programme pour rejeter le péché, occuper nos pensées, surtout dans nos moments de libre, occuper nos pensées par ce qui est bien et faire le bien autour de nous. Je dis surtout dans nos moments de libre, parce que quand nous sommes au travail, on a moins ces pensées, ces mauvaises pensées qui nous tarabustent. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça, mes amis, qui devrait nous attirer, plus que toute autre chose. C'est ça finalement, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est pas compliqué, hein. Oui, remplir nos pensées de tout ce qui plaît à Dieu. Et vous comprenez que c'est certainement un combat de tous les jours. Tellement nous sommes enveloppés par le péché. Un combat dans lequel il est difficile de rester seul. C'est bien vrai que nous ne sommes jamais de trop en Église pour nous encourager les uns les autres, pour nous exhorter, nous reprendre peut-être, en tout cas certainement pour nous pardonner. Nous pardonner et nous porter mutuellement, nous soutenir dans nos combats individuels et dans les combats de l'Église, sans doute. Nous serrer les coudes, comme pour les membres d'une même famille qui passent par l'épreuve. Et je vous assure que nous y sommes dans l'épreuve. Le diable et le monde veulent nous neutraliser et, si possible, nous faire renier ce que nous croyons, nous faire abandonner la foi véritable, comme pour ces chrétiens hébreux auxquels cette lettre était adressée. Et donc le Saint-Esprit nous dit, à chacun individuellement, mais pareillement en tant qu'Église du Christ, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Mais il ne s'arrête pas là, il ajoute, et courez avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Vous savez, c'est important qu'il y ait les deux. Oui, rejeter nos fardeaux, notre péché, et donc le péché, notre péché et le péché qui nous entoure, il faut aussi le rejeter, celui-là, mais en occupant alors notre regard et notre esprit par des choses justes et bonnes, et même les choses les meilleures, c'est-à-dire en fixant nos regards, notre regard, sur notre Seigneur Jésus. C'est le regard de la foi, bien sûr, comme quand nous levons les yeux au ciel pour admirer Dieu dans son saint temple. Mais vous noterez qu'il ne s'agit pas seulement de porter notre regard sur le Seigneur en restant inactif, statique. Non, il s'agit de courir, de nous empresser sur le chemin de la foi, dans cette carrière, dit notre texte, qui est ouverte devant nous. La carrière, ce n'est pas ce qu'il y a bien des années, je pensais être un lieu où on extrait des pierres. Voilà, je me disais que nous avions devant nous un grand espace, comme une carrière de Saint-Trifon, par exemple. Nous avions à courir dans la liberté que nous offre le Christ. Non, en fait, on pourrait traduire aussi ce mot de carrière par course ou épreuve, une épreuve sportive. Et la carrière, étymologiquement, c'était un espace où on faisait courir les chevaux, un espace fermé. Et par extension, c'est devenu tout simplement un terrain entouré de barrières et aménagé pour des courses de chars, des courses à pied ou encore des passes d'armes. En tout cas, un endroit où on se mesurait, où il s'agissait de remporter une victoire. et avec, bien sûr, des spectateurs, des supporters. Ce qui nous fait d'ailleurs mieux comprendre pourquoi l'auteur nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qu'ils ne sont pas seulement les témoins de la foi que nous regardons, comme je l'ai dit au début, mais c'est qu'ils sont eux-mêmes spectateurs autour de cette carrière en tant que témoins de notre course. Vous voyez ? De notre course chrétienne. Et ils nous encouragent à remporter le prix de la vocation céleste en Christ. C'est comme s'il nous disait, nous l'avons déjà fait, nous. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est les témoins de la foi. Philippiens 3, 12 à 14. C'est encore le grand apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est impossible, impossible de remporter ce prix si on n'a pas les yeux fixés sur Jésus. Si on n'a pas notre attention fixée sur lui, en nous attendant à son secours, à son intercession auprès du Père. C'est lui qui suscite en nous la foi. C'est lui, Jésus, qui est le chef de notre foi. Il nous la donne et nous conduit ensuite dans son affermissement. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, une œuvre cachée dans notre cœur, mais bien réelle. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, comme le dit la nouvelle édition de Genève de la Bible Second, qu'il est celui qui mènera notre foi à la perfection. Si nous nous appuyons sur lui, si notre entière confiance repose sur lui, parce que n'est-il pas lui l'objet suprême de notre foi ? Ben oui, c'est lui. Donc, avoir les regards sur Jésus, ici dans ce passage, est quelque chose de tout à fait semblable à ce que l'auteur de notre lettre disait au chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez, c'est examiner attentivement qui est le Seigneur et ce qu'il a déjà totalement accompli pour mon salut, pour le salut de nous tous, croyants qui sommes ici ce matin. Et ce qu'il est en train de faire là-haut, dans le ciel, alors qu'il est en ce moment même en train de nous représenter devant le Père. Mais avoir les regards sur Jésus, c'est encore autre chose. Et c'est la suite de notre passage qui nous le dit. Avoir les regards sur Jésus, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi, de la foi que nous professons, c'est examiner avec attention de quelle nature a été son parcours de la crèche où il est né à la croix où il est mort. Mort pour nous. Et c'est tout ce chemin-là de dévouement à Dieu, son Père, un dévouement, une obéissance sans faille en vue de notre salut. C'est tout ça qui l'a conduit, non pas seulement jusqu'à la croix, mais à être glorifié dans le ciel, assis à la droite du trône de Dieu, qui est le lieu de toute joie. Et notez que cette joie, La joie de notre Seigneur trouvera son accomplissement lorsque toute son Église sera réunie autour de lui. Les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Jésus savait que cette joie lui était réservée quand il était sur la terre. Mais cette joie du ciel, celle d'être auprès du Père, il a bien dû la quitter pour descendre parmi nous, pour porter notre péché. Il a donc accepté Jésus en échange de cette joie, au lieu de rester dans la joie du ciel, de venir souffrir sur la terre. Et notre texte nous dit qu'il n'en a pas eu honte. Non, il n'a pas eu honte de devoir endurer de la part des pécheurs la moquerie, les injures, le mensonge, les coups, puis la mort. Combien d'humiliations n'a-t-il pas dû endurer pour nous obtenir le salut ? C'était là le chemin qui allait le conduire, l'homme Jésus, Dieu fait homme, à la gloire céleste, remportant de cette manière définitivement la victoire sur le péché, sur le diable et ses démons. C'est ce que Paul explique dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. » Et nous terminons avec le troisième verset, courtement, où nous voyons justement l'auteur de notre épître nous exhorter à bien considérer notre Seigneur Jésus. Et en particulier, comme on vient de le dire, à essayer de comprendre ce qu'il a dû supporter de la part des pécheurs. L'opposition, la contradiction invraisemblable qu'il a dû souffrir de la part des hommes. Et il l'a fait pour nous, pour nous mériter le ciel que nous-mêmes n'aurions jamais pu mériter. Et en prenant la mesure de ces choses, cet abaissement inouï du Fils de Dieu, le Saint-Esprit veut nous encourager à ne pas nous lasser sur le sentier de notre pèlerinage terrestre. Même si la route est dure, même si les épreuves se multiplient et qu'on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Parce que non, ce n'est pas vrai. Il ne nous abandonnera jamais. Mais le Seigneur Jésus est passé par là, devant nous. Il nous a montré le chemin. Et c'est comme ça qu'il nous a obtenu notre place bientôt dans la joie du ciel. Amen.